Ne vous êtes-vous jamais demandé comment se forment les montagnes et comment se creusent les abysses? On a tous entendu parler, un jour ou l'autre, de tectonique des plaques. Toutefois, on a une vision un peu vague de comment cela fonctionne et une vision encore plus vague de ce que cela signifie pour le monde qui nous entoure. Et si la tectonique n'existait pas? Imaginez une planète Terre sans tectonique. Plus de chaînes de montagnes, plus de grandes fosses océaniques, la Terre serait bien moins cabossée, et surtout ce serait Waterworld, un film où la Terre est devenue quasi totalement aquatique, avec Kevin Costner qui navigue sur un improbable bateau. En effet, sans creux ni bosse, l'eau serait répartie en une couche homogène d'environ 2500 mètres de profondeur sur toute la surface de la planète. La mer partout, c'est plutôt bien pour les requins, c'est pas terrible pour nous. Heureusement, la tectonique des plaques existe, et depuis longtemps. Mais le fait que nous le sachions n'est pas si vieux. Parce que comment est venue l'idée que les continents bougent? S'il est bien une idée bizarre, c'est d'imaginer le mouvement des continents. On parle bien de terre ferme. De mémoire d'homme, les montagnes ont toujours été là. Certes, certains rivages se déplacent, comme celui d'Aigues-Mortes, mais on sait que c'est dû aux alluvions apportées par le fleuve. Dans le même registre, on peut admettre que le niveau de la mer a changé, référence faite au déluge, ou plus scientifiquement aux glaciations, mais sans pour autant imaginer un mouvement des continents. Des tremblements de terre se produisent, ils peuvent expliquer des mouvements verticaux, mais pas de grands mouvements horizontaux. Pourtant, dès la fin du XVIe siècle, des soupçons très vagues se font jour. Les premières cartes qui suivent l'époque des grandes découvertes révèlent en effet un possible emboîtement de l'Afrique avec l'Amérique du Sud. Mais quelle drôle d'idée, finalement! Mais cette idée en question est reprise à la fin du XIXe siècle, et surtout en 1912, par l'Allemand Alfred Wegener. Les arguments se multiplient et dépassent les simples similitudes de contours. La paléontologie atteste que des flores et des faunes anciennes identiques se retrouvent de chaque côté de l'Atlantique Sud, que des roches et terrains identiques se font face. Mais aucun mécanisme pouvant expliquer le mouvement d'objets aussi immenses et solides que les continents n'est disponible dans l'arsenal scientifique de l'époque. Wegener est un fantaisiste, un peu trop imaginatif, et voilà. Pendant une bonne partie du XXe siècle, pour expliquer l'existence de faunes et de flores continentales similaires, bien que séparées par de vastes océans, on imagine des ponts continentaux qui auraient relié les continents, puis se seraient effondrés, créant justement les océans. Une explication cohérente. Alors comment cette belle construction a-t-elle été démolie? Au tournant des années 1960, on commence à disposer de relevés cartographiques des fonds océaniques plus précis. On distingue des montagnes, des plaines, des fosses, qui ne semblent pas distribuées au hasard. On connaît également mieux la structure interne de la Terre, et l'on sait que sous la lithosphère se trouve un manteau visqueux animé de mouvements de convection. Il bouge très lentement, à la vitesse des phénomènes géologiques. Surtout, on connaissait l'existence d'inversions du champ magnétique terrestre. Vous connaissez la boussole, elle indique le nord. Eh bien, la boussole n'a pas toujours indiqué le nord au cours des temps géologiques. Parfois, elle indiquait le sud. Si on fait une carte des roches qui sont au fond de l'Atlantique et que l'on colore en blanc celles qui pointent vers le nord, dont le champ magnétique pointe vers le nord, et en noir celles dont le champ magnétique pointe vers le sud, on obtient des alternances de bandes blanches et de bandes noires. On construit en quelque sorte une peau de zèbre avec les roches les plus anciennes, les plus éloignées de la dorsale, et les plus récentes, proches de la dorsale. Et on constate que cette peau de zèbre est la même de chaque côté de la dorsale. C'est-à-dire qu'il y a des remontées de roches au niveau de la dorsale qui vont s'épancher de chaque côté de la dorsale, à peu près à la même vitesse, et que les orientations magnétiques différentes de ces roches, des blanches, des noires, se distribuent de la même manière de chaque côté de la dorsale. Et donc on a une sorte de chronomètre de la manière dont la dorsale a produit, a fabriqué du plancher océanique. Ce que je viens de vous décrire, c'est le mécanisme d'expansion du plancher océanique au dorsal. Le manteau remonte, ça gonfle, la bosse se fissure, elle s'effondre en son centre, puis s'étale latéralement. C'est un petit peu comme un soufflet au fromage qui, une fois qu'il a bien gonflé, se fissure et va finalement s'étaler et s'affaisser. Mais si de la croûte terrestre se forme au dorsal, cela signifierait-il que la Terre est en expansion, qu'elle enfle, comme notre soufflet au fromage? Ça serait un petit peu étrange, et ça voudrait dire en tout cas que la partie superficielle de la Terre s'amincirait, ça serait vraiment une explication bizarre. Peu après, on a découvert l'existence de la subduction. La subduction, c'est le plongement d'une plaque tectonique sous une autre plaque. Donc ça veut dire que ce qui se crée d'un côté au dorsal est avalé de l'autre côté, au droit des fosses océaniques, là où on a de la subduction. Et d'un coup, tout s'éclaire et paraît finalement assez simple. Les observations s'empilent, et elle confirme toute la même vision d'une planète qui change et évolue en permanence, mais à son rythme. Mais alors, quel est ce rythme? On a compris, l'Atlantique s'élargit. Il ne fait que ça depuis 180 millions d'années pour l'Atlantique Nord et 150 millions d'années pour l'Atlantique Sud. On a fini par avoir une mer que l'on peut traiter d'océan vers 65 millions d'années. Cela donne une idée de la vitesse de la dérive. Fallait pas être pressé. Pour vous donner une idée plus précise des vitesses en jeu, je vais emprunter une image à des collègues géologues. L'élargissement de l'Atlantique se fait à la vitesse de la poussée de vos ongles. Autrement dit, environ 5 cm par an. Ce qui veut dire que Christophe Colomb a franchi un Atlantique 27 mètres moins large qu'aujourd'hui. De l'autre côté de la Terre, le Pacifique rétrécit. Puisqu'il y a des subductions, des plongements de plaques les unes sous les autres, en Amérique et en Asie. Alors regardons maintenant vers l'avenir, vers un avenir lointain. Disons, regardons dans 250 millions d'années. On aura un immense Atlantique et un tout petit Pacifique. Un cran plus loin, les deux Amériques seront entrées en collision avec l'Eurasie, du côté de l'Asie. Au passage, la Méditerranée se sera refermée depuis belle lurette et l'Afrique fera bloc avec l'Europe. En résumé, l'Eurasie, les Amériques et l'Afrique ne seront plus qu'un seul supercontinent et l'Atlantique un superocéan. Alors ce que je viens de vous décrire, sans en avoir l'air, c'est un grand cycle de 400 à 500 millions d'années qui démarre avec un énorme continent, une Pangée, un continent qui va se fragmenter, qui va s'éparpiller façon puzzle pour se reformer de l'autre côté de la Terre. Et aujourd'hui, nous sommes pile au milieu de l'un de ces grands cycles dont les pulsations rythment la géographie de notre planète. Avec tous ces mouvements, on peut aussi s'interroger pour savoir si ces grandes plaques ont toujours été là. Pour faire simple, aujourd'hui, notre planète elle est pavée d'à peu près 7 grandes plaques, plus une quarantaine de plaques plus petites. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Au début de son histoire, c'était il y a environ 3 milliards d'années, 3 000 millions d'années, le Pulse comptait plusieurs centaines de petites plaques séparées par tout un réseau de dorsales qui évacuait une chaleur interne bien plus intense qu'aujourd'hui. La tectonique était alors bien différente. Des laves liquides denses remontaient entre les plaques et s'épanchaient en surface. Leur poids finissait par enfoncer verticalement une petite plaque qui descendait, provoquant par compensation une remontée latérale du manteau. Il faut penser à l'image d'un caillou qui s'enfoncerait dans une vase gluante, créant un bourrelet autour du caillou. La tectonique était alors surtout verticale et aussi beaucoup plus rapide, mais sans grande chaîne de montagnes. À propos de montagnes, et alors, qu'en est-il? Les montagnes sont le résultat de la tectonique. Des reliefs importants peuvent se former lorsqu'il y a des collisions entre plaques qui vont provoquer de la compression. Ça sera soit des collisions frontales, par exemple la petite plaque italienne est venue s'empaler sur l'Europe et ça crée les Alpes, avec des bosses là qui sont d'environ 5000 mètres de hauteur. L'Inde est venue se fracasser contre l'Asie, créant la chaîne de l'Himalaya, avec un Everest qui culmine à 8900 mètres. Et puis il y a un autre mécanisme qui peut intervenir, c'est lorsqu'une plaque vient plonger sous une autre plaque, ça va créer une fosse au droit de la plaque qui plonge, et ça va créer une bosse sur l'autre plaque. Le plus bel exemple est celui de la plaque Nazca qui plonge sous l'Amérique du Sud, créant le relief des Andes. De tels reliefs se forment encore sous nos yeux. Par exemple, les Alpes continuent de s'élever à la vitesse d'un peu plus d'un millimètre par an, soit un mètre par millénaire ou encore 1000 mètres par million d'années. Mais là, il y a un problème, puisque le soulèvement alpin a commencé il y a environ 30 millions d'années, les Alpes devraient atteindre une altitude de 30 km. Eh bien non, parce que deux éléments viennent contrarier ce mouvement vers le haut. D'abord, dès qu'un relief apparaît, il est soumis à une érosion. Une érosion de plus en plus intense au fur et à mesure qu'il s'élève. Imaginez que le Limousin, tout plat, devait ressembler à l'Himalaya il y a 300 millions d'années. Ensuite, les montagnes s'effondrent sous leur propre poids. Les roches semblent solides et robustes, mais à l'échelle géologique, elles fluent, elles s'écoulent en quelque sorte, car elles sont géologiquement visqueuses. On peut penser aux linteaux de cheminée, déjà anciens, qui remontent au Moyen-Âge, dans les châteaux du Moyen-Âge, dont on voit qu'ils sont ployés, ce qui prouve bien que la roche elle-même, elle a une certaine flexibilité. On peut penser aux plis qu'on peut observer dans les Alpes ou dans le Jura, et qu'on peut regarder dans le paysage. Donc les montagnes ont du poids, et elles sont visqueuses. Et finalement, c'est un petit peu comme un tas de sable. Lorsque la pression à la base du tas dépasse un certain seuil, le tas s'aplatit. Et sur Terre, cela implique que l'on n'aura jamais de montagne plus haute que 10 000 mètres d'altitude hors de l'eau. Et sur d'autres planètes? Je vais vous donner une information qui peut vous sembler paradoxale. Plus une planète est petite, plus ses montagnes pourront être hautes. Logique. Puisque les montagnes s'effondrent sous leur propre poids, si une planète est plus petite, la gravité y sera moindre et les reliefs s'effondreront moins car ils pèseront moins lourd. Olympus Mons sur Mars atteint ainsi une altitude de 26 km, de quoi faire envie à beaucoup d'alpinistes qui iraient peut-être bien faire un tour sur la planète rouge. Et la vie dans tout ça? Eh bien, une fois installée sur les continents, disons vers 400 millions d'années, la vie a suivi le mouvement des plaques. Et comme depuis 250 millions d'années, les continents tendent à se disloquer, il y a des groupes biologiques qui se sont retrouvés scindés en deux ou plusieurs entités. Le cas le plus connu est celui des marsupiaux, qui sont présents en Australie et en Amérique du Sud, ce qui est l'héritage de l'éclatement du continent du Gondwana, qui était un continent unique à une époque. Il y a un autre cas qui est moins connu, mais qui est pourtant issu de la même histoire, qui correspond aux arbres du groupe des Notophagus. Les Notophagus sont des sortes de hêtres que l'on rencontre de la Nouvelle-Zélande à l'Australie et au sud de l'Amérique du Sud, et qui ont même peuplé l'Antarctique avant que ce continent ne s'englace. Tout ça veut dire que le visage de notre Terre a beaucoup changé, que la planète a une histoire qui va se poursuivre, et que cela va entraîner d'autres évolutions de la vie, certainement sans nous, car ce sera dans pas mal de millions d'années. Le pourquoi du comment, science, par Bruno David. Réalisation, Charlotte Roux.